Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et diverses animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada, au 5430 Côte de Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20 h.
Ne manquez pas le spectacle de Dead Obies au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et Jeune Loup en première partie. Les billets sont en vente dès maintenant sur le deadobies.com. Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin. Don't fuck with me and I mean it. J'suis avec la femme et comme scheme. C'est magnifique dans mes DM. They come out here comme beer. On my, oh we, whole squad on fleek. No lie, no sleep, all eyes on me. Cette année, aux Francouvertes, la famille s'agrandit. Du 18 février au 6 mai 2019, le concours vitrine de toutes les musiques vous fera découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Pour choisir vos soirées, visionner les vidéos et découvrir la programmation, rendez-vous à francouvertes.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour, bonjour, bienvenue à l'épisode 194 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et cette semaine, on aborde un sujet qui est quand même assez près des sujets qu'on aborde habituellement à Pop en Stock, mais qui est un peu dérivé et en fait, c'est un objet que moi me fascinait longtemps pendant mes recherches quand je faisais ma maîtrise, parce que ma maîtrise, j'ai faite sur Alien et à plusieurs reprises, je voyais qu'il apparaissait des articles ou des articles de blog, surtout sur « Ah, il y a un nouveau fan edit de... » Alien Covenant, ou un nouveau fan edit de Prometheus qui mélange Alien. Puis j'étais comme, ah, je les mettais dans mes favoris, en me disant que j'allais les écouter plus tard. Puis Boris, qui est avec nous aujourd'hui, allô Boris?
Allô!
Est en train justement de faire des recherches sur les fan edits et a suggéré de qu'on en jase un peu à l'émission. Puis je trouvais que c'était une bonne occasion d'aller écouter ces fameux fan edits que j'ai enregistrés dans mes favoris et aussi de réfléchir un peu plus à l'objet. Parce qu'on a parlé de fanfiction et à Pop en Stock, on a parlé un peu de fan art et de toutes les pratiques de fans, de cosplay aussi. Mais le fan edit n'a jamais eu vraiment sa place dans la discussion. Puis c'est je pense que c'est le moment d'en parler un petit peu plus. Et aussi, en compagnie de Boris, on a aussi Simon Laperrière qui est avec nous.
Bonjour.
Allô Simon. Et ben commençons. Donc fan edit, on se posait un peu la question. Fan edit, re-edit, comment?
Ouais, ben c'est le problème de l'appellation de ces drôles d'objets-là. C'est intéressant ce que tu dis, Megan. Ce que tu évoques, c'est comment tu as construit un corpus de versions, si on veut, officielles, canonique de film, mais qu'en poursuivant tes recherches, tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres objets qui gravitaient autour. Et là, on peut se poser la question, comment nous, chercheurs, penseurs, on se positionne par rapport à ces objets-là, parce que, bien évidemment, ils ont pas été produits par les studios, par les réalisateurs, ils ont été produits par des instances externes qui sont les fans. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce qu'on les considère dans une réflexion sur un objet? Et c'est une question qui est quand même plus importante qu'on pense quand on tient compte que l'histoire du cinéma pose ces problèmes-là avant même que les fans n'interviennent. Je pense juste par exemple au au director's cut, oui, au montage alternatif, aux scènes coupées, aux films qui ont des montages faits spécifiquement pour un marché à l'international, donc la fin sera pas la même. Mm-hmm. T'es très près de nous, je pense que c'était Iron Man 3 dans laquelle il y a des scènes tournées spécifiquement pour le marché chinois, donc pour nous
version longue, version courte,
exactement. Oui. Les montages télé parfois, donc ce sont que des objets officiels. Donc, c'est qui ont été, pas toujours par le réalisateur, mais généralement, il y a, si on veut, un auteur ici au sens très, 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 très large, qui officie sur la façon avec laquelle les films se présentent à nous. Et bien là, arrive le point de vue des fans, et c'est une bonne question de se demander comment est-ce qu'on appelle ça ce qu'ils font. Donc, ces remontages de films faits par des amateurs, est-ce qu'on parle de edit ou de re-edit? Est-ce qu'on monte ou on remonte? Dans les faits, je pense qu'on remonte. On remonte ce qui existe déjà. On remonte ce qui a déjà été monté.
Oui, mais tout montage est remontage aussi, là, sans jouer sur les mots, là. Mais puis c'est aussi un peu ça le discours sur le fan edit, c'est que toutes ces gens qui ont été réédités, Steven Spielberg, George Lucas, c'est des fans de films, puis c'est des cinéphiles, puis eux autres ils faisaient ça aussi un peu. Ils faisaient pas du remontage, mais ils faisaient l'intertextualité puis l'intermédialité pas mal. Là.
Absolument. Puis quand on y pense, des cinéastes comme Cameron, Spielberg, Lucas, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous remonté leurs films. Alors on leur accorde cette permission là, parfois reculons, surtout dans le cas de George Lucas, on le sait à quel point plusieurs communautés de fans détestent les nouvelles versions de La Guerre des Étoiles. Même David Lynch avait apporté des petites modifications à Mulholland Drive pour la version sur DVD et VHS, mais on leur accorde ce droit-là de modifier leur film à l'infini autant que ça leur plaît parce qu'ils en sont l'auteur. Alors, pourquoi est-ce que des fans ne pourraient-ils pas faire la même chose?
Surtout qu'à un moment donné, avec le Director's Cut, avec le DVD, avec la multiplicité des versions, on arrive à un point où il y a plusieurs versions, même officielles. comme le Lord of the Rings, faut dire de quelle version on parle quand on parle de Lord of the Rings.
Il y a quand même une différence majeure entre les deux versions. Il y a eu comme beaucoup, beaucoup de contenu qui est ajouté dans la version longue.
Puis c'est aussi, c'est un peu devenu un outil de négociation pour les producteurs, dans le sens de comme, ah mais c'est correct, ça va aller sur le DVD, ça va être le Extended Cut, on va garder ça pour la version théâtrale, puis on va diviser un peu. Ah, j'ai dit version théâtrale pour Theatrical Cut, parce
oui,
que je sais pas c'est quoi.
Version
le...
cinéma, disons.
Ouais, version cinéma, c'est ça. Alors, puis les DVD ont amené ça, ils ont amené comme cette espèce de... Tout d'un coup, t'as un objet où t'as plusieurs films, plusieurs versions d'un même film. Comme, il y a aussi, c'est le... Il y a toujours eu plusieurs versions d'un même film, avec les doublages, avec les ratios, avec les versions censurées, versions pour la version pour les différents marchés, ça existe depuis que le cinéma existe, là. Ça date pas de Iron Man 3. Puis, tout d'un coup, là, on se retrouve avec un coffret de 5 versions d'un même film. On se retrouve avec, je pense aussi à Final Destination 3, que ils ont utilisé des extraits qui ont pas été, des versions du film qui ont pas été gardées parce que la vision qu'ils ont faite, le vision test a pas été positif, ils ont refilmé des trucs. Alors pour la version DVD, ils ont laissé le spectateur décider.
Ouais, ils ont fait un film interactif avec ce qui à la base n'en était pas un.
C'était recyclé, ouais. c'était pas prévu, puis ça a donné qu'ils ont fait ça, puis c'était même pas le réalisateur qui voulait nécessairement le faire. Alors là, tout d'un coup, les fans se retrouvent avec un objet qu'ils peuvent examiner, qu'ils peuvent regarder au ralenti, ils peuvent revenir en arrière, en avant, ils peuvent faire un espèce de processus de montage, puis tout d'un coup, ben on peut faire ce qu'on veut avec.
Ouais. Puis ça pose aussi la question de c'est quoi un film? Est-ce que le film c'est quoi sa version? Mais en fait, ça serait un peu l'ensemble de toutes ces versions-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, j'enseigne un cours à l'Université de Montréal et cette semaine, on parlait justement avec mes étudiants de la transsexualité et tout ce qui touche au paratexte. Donc, tout ce qui entoure un film et, selon Gérard Genette dans Palimpseste, les différentes versions. C'est du registre de la paratextualité. L'exemple que j'ai montré aux étudiants, sans surprise, Blade Runner, les deux fins qui changent drastiquement les interprétations qu'on peut tirer de ce récit-là. Et petite parenthèse, un truc vraiment intéressant, c'est que la fin originale, celle de la version cinéma dans les années 80, pointe beaucoup plus vers une suite potentielle. Que le montage de le montage que le celle du final cut, ouais. Oui, parce que je pense qu'il y a 5 fins officielles, ouais, à Blade Runner. Et donc, selon, j'ai demandé à mes étudiants, selon vous, quelle est la bonne version, quelle version doit-on analyser si on écrit un texte sur Blade Runner? Et ce qu'avance Jeannette dans Palimpseste, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est un problème qui est très épineux, et la solution d'un point de vue purement méthodologique, c'est de simplement dire, eh bien, pour le besoin de mes recherches, je vais parler du montage cinématographique d'Alien, donc celui qui a été présenté en salle. Et pour un autre, pour Aliens, là, je m'intéresserai à la version du réalisateur, le montage approuvé par James Cameron, pour X et X et X raisons.
En même temps, ça peut se justifier aussi par rapport à... si on est vraiment du côté de la méthodologie, là, mais si, par exemple, on s'intéresse à la réaction du public à l'époque, donc dans une perspective de réception de l'œuvre, c'est plus intéressant de nous intéresser au montage qui est présenté dans les cinémas versus celui qui n'a jamais été présenté dans les cinémas. Donc,
oui, tout à fait, parce que, soyons francs, les montages, les director's cut qui sont sortis sur DVD, qui vont peut-être parfois être présentés en festival, qui les regardent, dans les faits, ce sont les cinéphiles, ce sont les fans. Donc c'est peut-être pas, et ça on l'oublie souvent, c'est un problème dans les études cinématographiques, dans les études des les études culturelles en général, on oublie, si on veut, la majorité silencieuse qui est le public qui va tout simplement au cinéma, qui vont cuter, ils vont aller voir The Lord of the Rings une seule fois en salle dans le temps des fêtes, et si on leur dit, bah tu sais, il y a un montage de 3h30 qui va sortir cet été, mais ils le regarderont pas, parce que leur expérience c'est vécu une seule fois, ils ressentent pas le besoin de revenir vers un film, même s'ils l'ont apprécié. Mais justement, on peut résoudre le problème méthodologiquement, mais on ne le résout pas. Parce que justement, qu'est-ce que c'est de Lord of the Rings? Ben, je pense que dans les faits, c'est une trilogie qui se déploie sur plusieurs versions. Et il faudrait peut-être, et ça c'est difficile pour nous, et la solution méthodologique c'est de se concentrer sur une seule version, mais peut-être faudrait se donner à l'exercice de réfléchir ces films-là dans leur entièreté. Là. Donc vraiment tenir compte de toutes les versions, et peut-être même d'aller un pas encore plus vers l'avant pour y inclure les fan edits.
Ouais. Mais pour répondre un peu donner la définition de Jeannette dans Palimpseste qui parle de paratexte, mais dans un livre qui est paru il y a une couple d'années, Jonathan Gray, qui c'est dans le livre Show Sold Separately, donc pour lui, la définition du texte dans un contexte de culture populaire où ce qu'on veut prendre en compte les communautés de fans, le texte s'élargit même aux discussions qu'il peut avoir sur les forums, ouais, à toute la pratique de fan. Puis là, pour revenir à la question plus de comment on appelle cet objet-là, on réintègre le fan dans le remontage. Donc, toute cette relation d'amour à l'objet qui est réintégrée dans la perception qu'on a de l'objet. Parce que c'est sûr que la relation du fan, c'est une relation d'amour passionnel. Oui.
Eh bien, Paul Booth, dans un livre qui a été publié une dizaine d'années, qui s'intitule The Digital Fandom, lui, il suggère le terme d'intratextualité. Donc, c'est tous les échanges qui ont lieu au sein d'un texte. Et donc, on a notre texte qui est Star Wars, et tous les échanges des fans s'articulent au cœur même, dans l'essence même du texte, à travers leurs échanges, à travers leurs modifications, à travers leurs théories, leurs remontages, leur façon de véhiculer et de partager un plaisir envers cette œuvre-là. Donc, on ne tisse pas des liens avec d'autres textes, on reste dans le texte, et ça fait en sorte que malgré tout, on se rend compte là à quel point un texte finalement... C'est pas un objet hermétique du tout. C'est un texte qui change, c'est un texte qui se modifie au fil des années. Un re-edit de Star Wars, Le Retour du Jedi, fait, disons, dans les années 90, alors que là, la technologie tranquillement permet de le faire, parce que ça, j'imagine qu'on va y revenir. les technologies aujourd'hui permettent le fan-rated, ce qui n'était pas forcément le cas dans les 50 premières années du cinéma, où là, à moins d'avoir à portée de main une table de montage qui permet de remonter du 35 mm, c'était certainement pas à la portée de tous. Mais dès l'instant où, et ça, Jenkins le souligne souvent, comment les technologies ont changé les fandoms, avec Internet, mais aussi avec le simple fait qu'on peut acheter deux magnétoscopes qui vont nous permettre justement de faire un remontage d'un film. Ça, c'est hyper important, mais ces objets étranges-là, ce sont, appartiennent au texte et en quelque sorte, le définissent et le, surtout, et ça c'est plus important, le redéfinissent sans cesse. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que là, ça a été un long aparté. un remontage du Retour du Jedi produit dans les années 90 sera forcément pas le même qu'un qui serait produit aujourd'hui, puis probablement même qu'un produit en 2019 serait d'une certaine façon une réponse aux fan re-edits antérieurs, parce que les fans, en communiquant entre eux, ben ils créent un horizon d'attente qui fait en sorte que ben on souhaite voir ceci. Ok, ben là on va tout simplement l'ajouter.
Ben je pense que c'est intéressant aussi de peut-être se remémorer. J'ai aucune idée de c'est quoi l'histoire là. Donc Boris, je pense que tu voulais parler un peu de comment la pratique a émergé, puis un peu l'historique de.
Oui, on en a déjà parlé un peu avec le Director Scott. Puis je pense que l'émergence du DVD est essentielle pour comprendre ça, puis pour comprendre comment, tu sais, ça a beaucoup modifié comment le spectateur, puis comment les fans interagissaient avec le film. Après ça, bon, il y a aussi la réutilisation de la pellicule. C'est une vieille pratique, puis les cinéastes expérimentaux sont comme les premiers, un peu les pères du fan edit, même si je pense pas que les fan editors les connaissent nécessairement, mais c'est une espèce de paternité un peu c'est ça, non assumé, mais qui est là, qui est, je pense, propre au cinéma. Et je pense que l'autre cause, ça serait, c'est très 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 lié à Star Wars. Moi, je pense que George Lucas, c'est l'un des principaux créateurs de cette pratique-là, parce que tout d'un coup, on a un réalisateur, on a un auteur qui dit, mais finalement, ce texte-là, ben, c'était pas ça, c'est finalement, ça va être ça, puis je vais le modifier continuellement jusqu'à ce que ça fasse ma vision, mais ma vision, elle va continuellement changer aussi. Oui. Puis ça devient, la trilogie originale de Star Wars devient un espèce de texte fluctuant qui n'est jamais posé, qui change toujours, et il change toujours au gré de la personne qui détient les droits. Donc, qui n'est pas nécessairement celle... Parce que, tu sais, on parle aussi de l'auteur comme détenteur de la vision, alors que le cinéma, c'est des milliers de personnes qui ont travaillé dessus et qui sont effacées, qui sont littéralement stalinisées de la nouvelle version de...
Stalinisées.
Ben, pour vrai, oui. L'expression est pas de moi, là, mais
l'expression est forte.
mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont effacés, puis qui ont travaillé sur ce film-là, puis tout d'un coup, ils se trouvent plus là. Puis c'est pas une question de montage, c'est que tout d'un coup, 10, 20 ans plus tard, on décide de les effacer.
On a juste vu ça récemment avec la micro-controverse autour de Roma, où supposément que Cuaron, qui a reçu l'Oscar pour la meilleure direction photo, semblerait que c'est pas lui qui l'a fait. Il aurait payé un directeur photo un peu plus d'argent pour qu'il reste dans l'anonymat, ce qui allait y garantir une chance d'obtenir un Oscar. Et donc, qu'est-ce que l'histoire officielle va retenir? C'est Cuaron qui a gagné l'Oscar pour la direction photo, alors que tous ceux qui ont travaillé pour lui, dont le principal intéressé, qui est le directeur photo de Roma, va être écarté.
OK, fait que c'est un éditeur fantôme.
Un directeur photo fantôme.
Tout à fait. Puis c'est ça, Lucas, s'il s'en cache pas, là, je vais sortir une citation qui est très marquante, selon moi, de un peu sa mentalité. C'est qu'il dit que la trilogie originale existe plus, et it's like the 2004 DVD is the movie I wanted it to be, and I'm sorry if you saw a half completed film and fell in love with it, but I want it to be the way I want it to be. Alors là, tout d'un coup, les fans se trouvent dans une situation où ils sont obligés eux-mêmes de faire la conservation de leur patrimoine, parce que lui, il refuse de rendre ça accessible,
et justement de se positionner à quel est pour moi la version idéale de Star Wars. Quelle est la version que je préfère? Parce que j'ai jamais vraiment ouvert cette boîte de Pandore-là, mais j'imagine qu'il y a des fans qui défendent Lucas et qui préfèrent les nouvelles versions.
Tout à fait. Puis il y en a qui prennent tout ce que... Puis ils vont être aussi changeants que Lucas dans le sens que, ah ben là, les romans, ils ne juraient que par les romans. Ben, il les filme aussi. Hein. Mais là, les romans sont plus dans le canon. On tient plus compte des romans, c'est fini parce que c'est Lucasfilm, maintenant Disney, qui détient le monopole de cette signification là, alors que il y en a d'autres qui disent ben je m'excuse mais le film que j'ai vu en 77 c'est pas ce film là.
Mais ça c'est hyper intéressant ce que tu apportes parce que présentement je fais des recherches sur les fan theories et on en parlait avant d'entrer en onde, mais quelque chose que je remarque moi c'est comment c'est l'auteur et l'œuvre qui ont le dernier mot sur sur les interprétations. Ce que j'entends dire par là, c'est que on va prendre un exemple très simple, Westworld. Actuellement, la série avec Ed Harris, que j'aime beaucoup, il y a un mystère qui plane autour de son récit, c'est où se trouve le parc de Westworld. On ne le sait pas. La série ne nous l'a toujours pas dit. Et bien évidemment, il y a des fans qui se sont penchés sur cette énigme-là. Ils se sont tournés vers les épisodes, mais aussi vers tout le paratexte quant au Westworld, comme les faux sites web, des trucs comme ça. Et certains ont déterminé que Westworld était sur la planète Mars. D'autres pensent qu'au contraire, Westworld serait sous l'eau. Ou Westworld serait un monde virtuel comme la Matrice. Dès l'instant où Westworld va élucider cette énigme, où là, dans la série officielle, il va y avoir un épisode qui va nous dévoiler où se trouve le parc, toutes ces interprétations-là vont mourir. Les fans vont dire « Bon, ben on a notre réponse, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. » C'est la même chose par rapport aux auteurs. Quand un auteur confirme ou infirme une fan theory, généralement, les fans vont le suivre. Parfois, reculons, ils vont dire « Bon, ben George Lucas nous a dit que Jar Jar Binks n'est pas un Sith. On va arrêter de déblatérer là-dessus. » Mais là où ça devient intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que le fan re-edit ne fait pas ça. Le fan re-edit, c'est vraiment le fan qui regarde le film et qui se dit « Je me fous du point de vue de l'auteur. Moi-même, je peux l'améliorer, ce film-là. Mm-hmm. » Et ils vont tirer ces genres d'objets-là. Donc, il y a quelque chose de très anarchiste dans ce geste-là. Donc, on s'oppose à l'autorité de l'auteur. Ouais. Et ça, c'est vraiment fascinant.
Pour revenir, t'as mentionné le mot idéal tantôt, puis c'est vraiment ça que j'ai remarqué dans les discours que les fan-editors ont sur leur fan-edit. Donc, sur fan-edit.org, on a comme chaque version est éditée avec l'éditeur qui est mentionné. Puis il y a souvent des longs paragraphes explicatifs de pourquoi ils ont décidé de faire ce genre de montage-là. Parce qu'il peut avoir à peu près... Je pense qu'il y a sur fanedit.org, il y a à peu près 10 montages de la trilogie du Hobbit. Donc, ils expliquent pourquoi eux ont décidé de refaire ça de cette manière-là. Il y a toute une liste, souvent aussi des modifications qui ont été apportées, s'il y a des voix ajoutées, s'il y a de la musique ajoutée, on donne la source. Mais ce qui revient le plus, c'est la version, par exemple, du Hobbit, comme si on suit l'exemple, qui est sortie dans les cinémas, ne me plaisait pas pour telle raison, parce que Peter Jackson a décidé d'ajouter des jokes puis des histoires d'amour avec des nains puis des elfes, puis moi, j'aime pas ça. Puis j'ai décidé de refaire ça en fonction d'un idéal de qu'est-ce que moi, j'aime de cet univers fictionnel-là, que ce soit par rapport aux livres, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, moi, j'aime les livres de Tolkien, fait que j'ai voulu donner cette impression plus Tolkienesque à mon montage. » D'autres qui préféraient la première trilogie du Seigneur des Anneaux que Peter Jackson avait fait. Donc, on va faire « Ah, c'est plus fidèle à l'esthétique de ces premiers films-là. » Mais il y a toujours cet idéal auquel on essaie de revenir. Donc, cet idéal de l'univers fictionnel qu'on veut retraduire dans un film qui nous a déçus le plus souvent. C'est ce que j'ai pu remarquer.
Après ça, il y a aussi... Ça, c'est ce qu'on appelle les fix-edits. Les edits qui essaient de réparer, mais il y en a d'autres. Il y a aussi de l'expérimentation. Il y a aussi des explorations génériques, là, comme des re-edits qui essayent de voir... ça serait quoi Star Wars si c'était un film Grindhouse? qui est vraiment un exercice intéressant parce que ça aurait facilement pu être un film d'exploitation. Donc, on va rajouter des effets de gore puis une musique un peu plus...
On va graffiner l'image pour ouais, donner le dos de la pellicule.
C'est ça. Donc, il y a aussi des fanédettes qui veulent pas du tout réparer quoi que ce soit, mais qui veulent essayer d'autres affaires ou, comme des concentrations de personnages, comme faire Titanic, mais du point de vue de Jack seulement. Donc, on montre même pas ce qui se passe sur Titanic. On montre pas, ben, on montre ce qui se passe, mais de son point de vue, ce qui se passe avec Rose avant, on s'en fout. Ce qui se passe dans la cabine, on s'en fout. On regarde juste son drame à lui.
Ça reprend beaucoup des motifs qu'il y a déjà dans la fanfiction, là, donc d'essayer de revoir l'histoire d'un point de vue d'un autre personnage ou d'enlever complètement un personnage.
Comme
ou...
ça s'est fait avec Jar Jar Binks.
Ouais. Évidemment. Là. Ou justement de jouer avec les codes du genre, de faire telle histoire, justement, telle histoire d'aventure, on veut rendre ça une histoire d'horreur, ou de jouer justement avec les codes cinématographiques cette fois, plutôt que les codes littéraires, là, puis les réintégrer dans l'image, puis d'ajouter ça à l'image pour...
Oui, puis ce que tu disais tantôt, un peu la documentation, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est très, très, très documenté comme pratique. Souvent, les fan-éditeurs, ils vont tout expliquer ce qu'ils font. Il y a même aussi, plutôt que d'uploader des gros, gros, gros fichiers, ils font juste mettre des métadonnées. Ils font comme un do-it-yourself fan-edit. Donc, je vais même pas vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, le minutage exactement.
Mais ça, je pense que les fans font ça pour se revendiquer eux-mêmes d'une certaine autorité, pour démontrer voici, je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais, mon travail, grosso modo, mon travail est un travail.
Ouais, ben légitimité plus qu'autorité, je dirais, parce que ouais, tout à fait, mais je pense que c'est une manière de justement se justifier puis d'expliquer. Puis il y a vraiment une importance donnée dans fanedit.org. Il y a comme des règles pour dire si vous voulez écouter des fanedit. Il faut que vous possédiez les films chez vous avant d'écouter les fan edits. Il y a vraiment une volonté d'être légitime, légal, puis de
il y a un code de valeur. Là,
c'est oui. ça, c'est ça, exactement. Puis ici, on est des fans, on n'est pas nécessairement des... On est des pirates parce qu'on est obligé de l'être, mais il n'y a vraiment aucune volonté de faire de l'argent ou de montrer des images qui n'auraient pas été vues de manière légale par quelqu'un avant.
Ouais, parce que forcément, on parle de fans... Dès l'instant où on touche les fanfictions, fanedit, fandom, la question du droit, la question juridique, du droit d'auteur se pose. Ce que je me rends compte en ouvrant ce dossier-là, c'est que les fans sont très conscients de ce qu'ils font, actuellement, ils font quelque chose qui est fondamentalement clandestin. Ils pourraient avoir des répercussions en cours. Sincèrement, je doute que, comme ils font pas d'argent avec ça, je pense pas que Universal va se donner la peine de poursuivre un individu qui a pas d'argent parce qu'il refait un remontage d'Indiana Jones.
Je pense que Disney, par exemple, serait assez...
Non, mais ils s'en foutent, pour vrai. Là. les réalisateurs, souvent, ils trouvent ça cool, puis les maisons de production s'en foutent. Le seul moment où il y a eu vraiment un gros, gros problème, c'est justement quand le fan edit le plus... qui est comme le premier qui a été médiatisé, c'était justement un fan edit de Phantom Menace. Parce que justement, là, pour revenir un peu à ce que je disais, ça fait que vu que je suis obligé de faire ma propre conservation du patrimoine, ben c'est normal que quand il y a un film de marde qui sort de mon fandom, ben je vais faire ma propre version. Et
afin
au début,
préserver l'attrait de ton fandom d'une certaine façon.
Exactement, puis continuer l'histoire, mais de la bonne manière, de ma manière, parce que clairement, la personne qui l'a fait a plus l'autorité de le faire parce qu'il est même pas capable de conserver ses propres films. Donc, c'était celui qui était le plus médiatisé, puis au début, Lucasfilm avait aucun problème jusqu'à ce qu'il y ait des copies illégales qui se vendent et qui ont pas été vendues par l'éditeur qui avait fait le fan edit, qui ont été vendues par d'autres personnes. Et puis là, ils ont dit comme, non, ça marche plus, là, puis je veux juste lire aussi deux statements qu'ils ont fait à partir de ce moment-là. Premier où ils ont dit « The whole bottom line is Star Wars exists because of its fans. We don't want to anger them. We want them to have fun with it. But then we have to be really clear too about how far you can have fun with it. » Un peu plus tard, ils vont dire We wanted to have fun, but in fact, somebody is using our characters to create a story unto itself that's not in the spirit of what we think fandom is about. Fandom is about celebrating the story the way it is. Bon, ça, c'est 2001. Ça, la situation a beaucoup changé, mais c'est quand même drôle de voir ça aujourd'hui.
Ouais, vous êtes bienvenue dans le canon, mais c'est respectez ça. Les règles.
Exactement. Et d'ailleurs, l'auteur de ce fan, le fan editor, qui après, on a découvert son nom, qui était Nichols, mais lui, il voulait faire ça dans le but de rentrer dans au dialogue avec George Lucas. Lui, pour lui, c'était une critique constructive. C'était pas une manière de nécessairement s'approprier de manière mesquine le film. Et lui, il a toujours voulu le rencontrer. Et finalement, les médias sont réappropriés un peu cette histoire. Ils ont un peu mélangé plusieurs fan-edits. D'ailleurs, c'est un peu un problème dans la théorie sur le fan-edit parce que ça prend tellement de place, là, de Phantom Edit, que on parle beaucoup de ça puis pas d'autre chose, puis on se rend compte aussi en les lisant qu'il y a beaucoup de chercheurs qui en parlent qui ont pas vu le fan edit parce qu'ils vont dire ah oui la version qui élimine Jar Jar Binks alors que Jar Jar Binks c'est pas éliminé, il est juste réduit. Fait que tout de suite tu vois quel article est-ce qu'ils ont lu puis quel review ils ont vu, alors que ce monteur-là, lui, il voulait juste rentrer en dialogue. Puis ça revient souvent aussi, c'est que c'est de la critique constructive, c'est ça reste du fan.
Oui.
Ça reste de la création de fan, puis ça reste
ça reste le fun. C'est censé être ça. Le fun. Ce qui est assez réjouissant d'étudier les fans, c'est d'entrer dans une zone où généralement, parce qu'il y a un fan edit qu'on va peut-être parler un peu plus tard qui cause problème, mais généralement on est dans le ludisme pur, on est dans le plaisir communautaire avec quelques règles. T'es par exemple une connaissance du canon, généralement c'est essentiel pour pouvoir participer pleinement aux échanges qui se font, mais je pense que justement les créateurs sont un peu dans une position étrange. Oui, on joue avec leur œuvre, on se la réapproprie, mais en soi, ça découle d'un amour, d'une passion. Si on remonte Blade Runner, il doit avoir des fan edits de Blade Runner qui existent. Mm-hmm. C'est par plaisir, c'est par respect pour l'œuvre. Au final, c'est dire ben. On veut rendre hommage au film en y apportant ce qu'on perçoit comme des modifications positives. Mm-hmm. C'est pas du tout c'est pas un acte de destruction comme ça serait le cas avec certains cinéastes expérimentaux. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On est vraiment dans le respect de l'œuvre.
Puis d'ailleurs, dans la recréation.
Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de fan editors qui essayent de retrouver la version du réalisateur qui aurait été perdue parce qu'elle s'est faite charcuter par des producteurs, dont Raising Kane, le film de Brian De Palma, qui à la base avait une histoire complètement pas linéaire, puis qu'ils ont forcé à la dernière minute de remonter pour que ça ait une certaine cohérence narrative plus linéaire, et qu'un fan éditeur a essayé de remonter selon sa vision et qui a été Brian De Palma l'a vu et il a dit ça c'est mon director Scott et ils l'ont mis sur le Blu-ray de Raising Kane comme un director Scott. Mais après ça, bon, il y a aussi l'effacement du fan editor au profit de la vision du réalisateur. Ça aussi, c'est un peu...
Parce qu'encore une fois, c'est l'auteur demeure la figure d'autorité. C'est en approuvant ce montage-là, en se le réappropriant puis en le vendant officiellement.
Je pense que c'est... Ouais, mais je pense que c'est un désir de, encore une fois, se justifier, mais ça va peut-être disparaître, ça. Oui, il y a de ça, mais je pense que vu que c'est un acte d'amour vis-à-vis de cet auteur-là, il y a cette volonté-là de se justifier. Après ça, est-ce qu'il demeure vraiment l'autorité? Je pense que c'est en train de s'effacer.
Oui, tranquillement, mais aussi surtout que si l'auteur lui-même prend pas position par rapport à ce qui se fait, est-ce que Kevin Feige a vraiment commenté les fan edits des films de Marvel? Pas à ma sûrement connaissance. On sait qu'il lit il fréquente les forums. Ça, dans l'anonyme, donc peut-être que Wolverine maintenant il peut, là, vu qu'il a récupéré les droits, mais peut-être que Wolverine hashtag lol, c'est peut-être Kevin Feige en secret qui échange avec des fans, on sait pas. Mais tu sais, justement, donc tant et aussi longtemps que l'auteur ne se prononce pas, ben l'hommage peut se faire, mais là, il y aurait peut-être pas le dialogue est recherché. Ouais. Ne se fait peut-être pas. mais il y a un autre dialogue qui se fait qui est avec les autres fans qui vont commenter puis qui vont éventuellement permettre d'engendrer des, d'autres fan re-edit. Donc c'est constamment en évolution. C'est ça qui est vraiment fascinant. Et ça démontre justement du fait que ça évolue constamment, qu'on pourrait avoir jusqu'à la fin de l'humanité des remontages de Phantom Menace. Ça démontre comment l'œuvre, le texte, c'est quelque chose qui est fondamentalement malléable. Mm-hmm. On peut le modifier à l'infini. Et ça aussi, interpréter, appréhender le texte de cette façon-là, ça lui enlève une part d'autorité. Ça enlève l'autorité de l'auteur, en tout cas, de dire, ben écoutez, Flaubert, il a écrit Madame Bovary, c'est bien, c'est rigolo, mais ce chapitre-là, il sert à rien. On va l'enlever. Mais le texte reste, Madame Bovary existe encore, c'est juste qu'il a été remodelé pour correspondre au désir, dans ce cas-ci, d'un lecteur ou d'une lectrice.
Ça, ou tous les hybrides aussi qui se font en deux films, tu sais, ça pourrait aussi se faire deux œuvres de Flaubert, on essaie de les faire fonctionner ensemble, on mélange le texte, et c'est ça aussi que ça devient comme des choses de Frankenstein, là, mais ça fait tellement une richesse surprenante, souvent. Ouais. Là, donc, justement, faire un changer les codes de genre, mélanger le texte, changer l'ordre des scènes. J'ai regardé hier un fan edit qui mélangeait Prometheus et Alien Covenant en deux storylines parallèles. Ça donnait quelque chose de spécial. C'est de voir...
Mais oui, c'est ça. Ça démontre comment on peut expérimenter avec la fiction. Tu sais, comment la fiction, on le sait, elle se résume pas qu'à ce qu'on nous montre. Il y a toutes les réflexions qu'on se fait, les interprétations qu'on en tire.
Puis aussi, avec l'omniprésence aujourd'hui des œuvres transmédiatiques et des œuvres qui sont basées sur un monde fictionnel plus qu'une œuvre en soi, ça fait que la porosité entre les œuvres est de plus présente que jamais, puis il y a cette élasticité-là qui fait qu'on peut mélanger tout ça.
Absolument. Ouais. Tout à fait. Puis j'aime bien ton terme de Frankenstein, parce que ça me rappelle... c'est peut-être comme ça, finalement, qu'il faudrait interpréter le texte, comme justement, c'est un patch texte, c'est un film n'est que le morceau de quelque chose de beaucoup plus large qu'on pourrait appeler l'œuvre médiatique, disons. Mais ça me rappelle une anecdote que je voulais partager avec vous. Il y a quelques années, j'étais à Paris et j'ai eu l'opportunité de prendre un verre avec monsieur Jean-Pierre Bouixou, qui a été un réalisateur de films pornographiques et un très très grand cinéphile, donc il a pleinement profité de des projections de cinéma de genre, comme il y en avait beaucoup dans les années 60 à Paris, puis il me racontait que, afin d'éviter des problèmes avec la censure, c'était assez fréquent que des exploitants de salles porno coupent les plans de fellation et de pénétration. Mm-hmm. Mais il les gardait. Et dans certaines salles, il les rapatriait tout ensemble sur une seule bobine. Et on pouvait voir une sorte de film fantôme qui était composé uniquement de ces images clandestines-là, dans laquelle il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de contexte. Et ça durait parfois 4 heures. On pouvait rentrer et sortir à sa guise. Et j'ai demandé à monsieur Bouixou, il me dit, mais mon Dieu, mais c'est extraordinaire que ça ait pu exister. Qu'est-ce qu'il y en est de ces copies-là fantômes? Il me disait, ça a été jeté. Ça probablement aussi que parfois les autorités se rendaient compte que ces images-là étaient montrées en salle, donc il s'appropriait les copies. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que on est vraiment dans un pur délire mercantile, clandestin, mais d'une certaine façon, ça évoque le fan edit d'une façon un peu détournée, dans la mesure où t'es ce qu'on peut pas vous montrer, on va le faire, on va vous le montrer, on va montrer que ça. Et ça, d'une façon assez différente, les fan edits font la même chose. Vous trouvez que la première trilogie de Star Wars avec Phantom Menace, Attack of the Clone, ma mémoire, Revenge, le dernier avec...
Revenge of the Sith?
C'est le 3, ouais, Revenge of the Sith. Ben, vous trouvez que c'est trop long? Bon, on va vous faire un montage de 2 heures des 3 films. Et ça c'en est un que j'avais visionné il y a quelques années. Ben, sincèrement, c'est meilleur.
Ça doit.
En tant que spectateur, j'ai trouvé que c'était meilleur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évacué beaucoup de scènes d'Attack of the Clones. Finalement, il n'y a que la bataille des clones. Donc le deuxième épisode est complètement disparaît presque complètement.
Ah, c'est quasiment juste des scènes de bataille. Là.
Ouais. Puis il était assez ennuyeux.
Ah mais on s'entend qu'il y a pas d'histoire dans ces films-là. Les trois premiers prequels, je m'excuse là, mais.
Non, mais aussi il y a un problème. Je pense que quand George Lucas raconte qu'il avait écrit ces scénarios-là quand il avait l'âge de 20 ans, ça paraît. ça paraît.
Mais ça doit être faux aussi.
Ouais, ben j'imagine qu'il y a eu des modifications. Je pense pas qu'il a sorti ça. Mais justement ce qu'il faut percevoir dans le fan re-edit, c'est foncièrement c'est un geste qui est cinéphile. C'est une façon qu'ont trouvé des cinéphiles, des fans de poursuivre leur passion au-delà du simple visionnement. Parce que là on va y apporter sa gomme, mais c'est une façon de c'est une façon de rester dans l'œuvre, de maintenir un peu une relation aussi avec l'œuvre.
Et à l'autre extrême aussi, c'est pas comme du fan film où là il y a toute la production qui est prise en charge, là. C'est vraiment juste le montage qu'on retravaille.
C'est ça. Mais il y a une dimension historique aussi, comme par exemple il y a des fan edits qui sont juste faits pour reconstituer des films perdus. Par exemple il y avait un remontage de Your Majesty's Secret Service. Il y avait un montage qui était fait pour la version télé et qui était vraiment qui a massacré apparemment, j'ai pas vu, mais il a massacré la version cinématographique. Et il y a des gens qui ont connu juste ça. Bref, c'est un montage très très haï là, par les fans de James Bond. Et je pense que c'est ABC, je sais plus. En tout cas, la chaîne radio qui l'avait l'ont finalement détruit, l'ont plus conservé. Mais il y a des fans qui l'ont reconstitué juste pour avoir une comparaison un peu de c'est quoi qui se faisait à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait comme montage télé, puis pas nécessairement pour retrouver cette merveille-là, parce qu'on s'entend que c'est de la cochonnerie, là, mais pour garder cette pratique-là.
Une sorte de préservation détournée, parce que ce qu'on préserve, c'est pas l'objet en tant que tel, c'est un peu comme une idée qu'on s'en fait, mais qui permet de se référer à quelque chose, justement, qui est perdu.
Une sorte de savoir-faire, mais qui est imaginé encore, là.
Un savoir-faire, mais aussi comme une pratique. C'est une pratique technique qui se faisait, là, qui se fait encore aussi. Et il y a aussi un peu du fantasme. Il y a une espèce de fan edit qui essaie de retrouver des fan edits qui n'existent pas, là, comme le fan edit de Topher Grace. Qui existe, mais que Topher Grace, qui est comme un fan éditeur vraiment célèbre, mais dont on ne détient aucune copie parce que il les montre pas, ils montrent juste des trailers de ses fan edits. Donc il y a un fan edit qui avait fait de la trilogie aussi, là, je pense que c'est l'un des premiers de la trilogie des prequels qui fait 1h30. Puis il a montré dans une projection privée à certaines personnes, dont il y a un journaliste de Slash Film qui en a fait un peu la description, et il y a personne d'autre que ces gens-là qui ont pu voir ce fan edit là. Donc il y a des fan editors qui ont essayé de remonter ça, de créer une espèce de vision fantasmée de c'est quoi que ça doit être ce film là.
À partir des descriptions qui ont
à partir
eu.
Des descriptions, fait que là bon, ça dit un peu plus sur leur vision à eux de la trilogie, que c'était quoi ce film là. Puis après ça, il y a même des fans qui disent mais ces versions là, c'est sont pas aussi bonnes que ce que moi je pense, fait qu'ils combinent ces montages là dans leur propre fan edit.
Puis c'est extraordinaire.
Ah oui,
c'est repris again and again and again.
Est-ce qu'il y a des fans à tout hasard qui ont tenté, peut-être en rapatriant des images de making of, de scènes coupées, qui ont tenté de faire le montage de 6 heures de l'Exorciste? Parce que ça, c'est une légende urbaine qui persiste encore, que les studios auraient accepté de faire, t'sais, Warner Bros. Aurait fait un montage de 6 heures de l'Exorciste, qui bien évidemment est complètement faux. Mais je me demande s'il y en a qui n'ont pas tenté l'expérience. Il n'y a peut-être pas assez de matériel pour faire une version aussi longue.
Je pense pas que le matériel existe, mais j'en ai pas entendu parler. On peut faire la recherche, là, mais j'ai pas entendu parler de ça. Je penserais pas.
Parce qu'on parle là, tu parlais de fantasme, puis ça m'a tout de suite rappelé les histoires autour de ça, puis je me disais, peut-être qu'il y en a qui ont essayé, mais encore une fois, c'est que autant le film est malléable, autant il y a une limite dans sa malléabilité. On peut faire une version de 15 heures de Star Wars, là on ferait une sorte d'immense montage monstre, on inclurait tous les films, puis bon, peut-être même glisser des éléments de séries animées, mais malgré tout, il va arriver à un point où à moins d'incorporer des images de d'autres canons, disons Star Wars rencontre Star Trek, ce que j'ai déjà vu, ça existe. Oui. C'est pas parti. Moi, je trouve pas ça particulièrement intéressant. Mais justement, l'œuvre a des limites.
Ça devient de l'art à contrainte. Là.
C'est ça.
Tu travailles avec un matériel préexistant que tu peux combiner à volonté, mais à un moment donné, il faut que ça ait une certaine cohérence. En tout cas, c'est ça la contrainte.
Oui, et les fans l'exigent, cette cohérence.
C'est ça.
Il faut qu'elle soit là.
C'est ça. Parce que là, tout d'un coup, ça fonctionne pas en montage, les transitions sont mal faites, ça paraît, puis ça nuit à la qualité de l'œuvre.
Mais je me souviens qu'il y avait eu je me souviens plus c'était pour quel fan re-edit, mais il y avait des fans qui étaient furieux parce que le montage était allé chercher des images de d'autres films. Mais parce que pour lui, ça facilitait sa tâche pour obtenir certains plans. Et il fallait quand même être attentif pour les reconnaître, si on veut, les plans clandestins. Mais bon, évidemment, les fans, eux, sont assez attentifs pour pouvoir les reconnaître. Et ça a été carrément banni. Ça, c'est pas bon parce que la source n'est pas que le film lui-même. Il y en a d'autres.
Après ça, il y a des remixes qui se font puis qui passent très bien. Là. Je sais pas c'est pour quel film, mais c'est une pratique qui a évolué aussi. Je pense que les fans, ils sont un peu plus ouverts maintenant.
Ça doit aussi dépendre des communautés. Donc, il y a des communautés qui sont plus ouvertes à justement intégrer de la musique qui vient d'ailleurs aussi. Il y a beaucoup de ça. Là. Donc, on essaie d'intégrer une ambiance sonore musicale qui est un peu différente. Là. Je pense à celui que j'ai écouté hier. Là. Ils ont juste ajouté Country Road, Take Me Home de John Denver dans Prometheus, parce qu'on l'entend dans Covenant, dans l'enregistrement. Donc, il y a comme une alternance entre les deux scènes. Mais ils ont ajouté la chanson pour justement faire la transition.
Très intéressant.
Ouais, mais ça arrive quand même régulièrement où est-ce qu'on ajoute des thèmes, comme le thème de Misty Mountain dans The Hobbit, où qu'il l'ajoute partout parce que tout le monde trippe sur la chanson.
Mais j'aime bien comment tu abordes le terme de communauté dans sa pluralité, parce qu'on a souvent tendance, quand on étudie les fans, à lire des textes et nous-mêmes à aborder les fans comme étant une seule communauté.
Un monolithe
de fans. Et moi, de mon côté, le fan Reddit que je me suis donné comme mission de regarder, j'ai pas regardé au complet parce que ça me choquait trop, c'est le chauvinist cut de The Last Jedi, donc cette version sans aucune femme. Il y a quelqu'un qui a dit il y a trop de femmes dans Star Wars et il les a toutes éliminées.
Dans The Last Jedi.
Et j'ai regardé 20 minutes, mais après, mais c'est tellement puant de misogynie qu'il y avait un point où je suis comme non, c'est j'ai l'impression d'encourager ça en y apportant une attention. Mais par curiosité, en allant sur Google, puis en me tournant vers, disons, les médias officiels, c'était condamné par tous les sites. Mais en fouillant un peu, je suis tombé sur des forums dont les membres sont des incels, ils sont tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est comme une sorte de communauté, heureusement très 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 marginalisée, mais
en même temps, c'est pas,
qui vont trouver leur compte dans le chauvinisme, comme on disait tantôt, qui en plus se revendique.
Ouais, c'est ça. C'est ça, l'appeler chauvinisme, revendiquer le chauvinisme.
Ouais.
Comme un badge d'honneur.
Ouais,
mais c'est ça. Avec une des fans aussi nombreux que Star Wars, c'est sûr qu'il y a des clashs dans les communautés. Puis malheureusement, la communauté qui trippe sur le chauvinisme parle fort dans les réseaux sociaux.
Absolument, mais c'est tellement difficile parfois d'expliquer que non, tous les amateurs de jeux vidéo ne sont pas des membres du Gamers Gate. C'est eux qui parlent le plus fort parce que on parlait tantôt d'un public qui est une majorité silencieuse. Il y a aussi les fans aussi, il y a une part de majorité silencieuse. Tu sais, c'est des fans qui vont peut-être consommer des fan edits, qui vont se tenir au courant, mais qui vont pas participer de façon aussi active que d'autres individus. Qui, malheureusement, pour nous qui étudient les fans, ben c'est souvent justement c'est ceux qui les toxiques, si on peut les appeler
comme
ça. On
étudie les traces, donc c'est eux qui laissent le plus de traces.
Exactement.
Mais ça amène sur le sujet une part très importante de toute pratique de fan, que ce soit la fanfic, le fanfilm ou le fanedit, c'est qu'on essaie de recréer l'œuvre qu'on aime le plus pour qu'elle réponde à nos besoins ou qu'elle réponde à notre imaginaire, que ce soit de façon constructive, par exemple avec la slash fiction ou toutes les fanfics plus queer, où ce qu'on veut intégrer justement une plus grande diversité, mais le chauvinist Scott de Last Jedi clairement répond à cet imaginaire-là d'une certaine communauté de fans qui trouve qu'il y a trop de femmes dans ce
truc. Oui, puis qui veulent préserver une sorte de de conservatisme par, par rapport à ça. Donc t'es, c'est plus mes Star Wars, c'est rendu trop ouvert là. C'est dommage que Jean-Michel Bertrand ne soit pas là aujourd'hui parce que il avait écrit un bel article sur ses fans qui se frustrent à l'idée que leurs comics deviennent plus politisés.
Ouais.
Mais là, dans ce cas-là, s'il faisait des fan re-edit de comics, est-ce que ça existe? Ça, je le sais pas. Ça, je me suis pas parlé. Mais sûrement, les fans sont bons pour nous épater.
Sûrement,
ben, c'est qu'ils reprendraient une BD puis retireraient toutes les références à la politique qui les énerve. Ça donnerait pas des longues histoires tant qu'à moi. Mais justement, c'est que là, c'est putain un jeu à la fiction que plier une œuvre à ses valeurs. Et ça, ça peut être à la fois, comme tu dis, Megan, hyper intéressant du côté de la fanfiction, justement. On va développer des intrigues queer, mais ça peut aussi démontrer comment il y a encore tout un pan de droite qui demeure et qui a une certaine mainmise sur la culture populaire. Et
mais
qu'on ne veut aussi, pas l'adresser.
Mais,
on
mais
veut...
que aussi que ces fans sont jamais justement dépolitisés et que ces pratiques-là ne sont jamais dépolitisées, sont toujours inclus dans certaines idéologies.
Absolument, là. Absolument. Et faire un chauvinist cut, malgré tout, c'est un geste qui est très politique.
Définitivement.
Mais qui se revendique de la politisme en disant « Vous vous amenez de la politique dans mes films, alors que moi, j'en veux pas. » Alors que, tu sais, on a juste envie de lui répondre « Dude, t'as 6 films de Star Wars sans noir puis sans femme. »
Oui, c'est
ça. Mais la politisme, pour eux, n'a pas nécessairement la même définition que pour nous.
C'est ça. Je me souviens, j'avais fait quelques années de ça, de voir... Parce que à la rigueur justement, ben regarde, si t'aimes pas les nouveaux films, regarde-les pas.
Mais ça c'est impossible.
Ça marche pas parce
qu'il y a juste les faux fans qui aiment ces films-là.
Absolument.
Il y a ce discours-là.
Il y a ce discours-là parce que ces gens-là, pour eux autres, il y a juste une communauté de fans, puis c'est la leur.
Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ceux qui vont se fâcher de Captain Marvel parce que là on a une super héroïne. Ou et c'est là où je voulais en venir. Je me souviens avoir lu sur Facebook, je te l'avais envoyé ça, Megan, un fan de comics fâché d'apprendre que Marvel préparait un film avec une super-héroïne qui est musulmane. Et il avait dit, quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça sert à rien de faire des films pour des gens qui ont jamais lu de comics?
Ça, c'est pas mal fort.
Et là, t'es comme, ben oui, parce que c'est vrai que les sondages ont démontré qu'aucune musulmane ne lisait de comics de super-héros. Ouais, c'est jamais arrivé.
Mmh. Puis que Miss Marvel, maintenant, dans sa nouvelle mouture, a jamais été une femme musulmane.
Non.
Mais ça montre que, tu sais, on lit les comics qu'on veut, tu sais, puis lui, il a jamais croisé ses comics. Tu sais, ça doit être quelqu'un qui est probablement pas ouvert en nouveau comic dans les 20 dernières années.
Et c'est intéressant le point que tu apportes. On lit les comics qu'on veut, on voit les films qu'on veut, et si ces films-là ne répondent pas à nos attentes, ben on a aujourd'hui les outils technologiques pour les remodeler. Et au final, c'est ça le fan edit dans sa dimension positive autant que négative, autant que toxique.
C'est plutôt à double tranchant.
Oui.
Il y a un gros sondage, pas sondage, pétition d'un réalisateur de film qui est surtout, je pense, fait des courts-métrages, là, mais qui veut faire une version de The Departed, une version officielle où il efface la dernière, bon, il efface le rat de la dernière scène. Là, c'est techniquement pas en fan edit parce qu'il changerait l'image. Mais selon la, je sais pas si tu replaces un peu le film, mais à la fin du film, il y a du point de vue de l'appartement de Matt Damon, on voit un petit rat qui arrive à la fenêtre, qui est comme un clin d'œil parce qu'il cherche toujours à démasquer la taupe, le rat. Il y avait tout le temps le rat, puis à la fin, il y a ce clin d'œil-là. Puis selon ce réalisateur-là, cette scène-là vient, bah, ce moment-là de la scène vient tout gâcher le film parce que c'est Keaton, c'est on the nose, puis il fait une pétition, puis il cherche d'abord de l'argent, là. Voyons.
Ouais, c'est un genre d'Indiegogo.
C'est ça.
Il a parti un Kickstarter pour pouvoir. Pour payer les droits.
GoFundMe.
C'est ça, pour changer de cette scène-là, pour finalement améliorer le film. Ça me fait penser aussi à Psycho de Roger Ebert Cut. qui vient en fait d'une critique Roger Ebert avait faite à la fin des années 90 de Psycho en disant que Psycho est un chef-d'œuvre, mais si seulement il n'y avait pas cet épilogue de 10 minutes où le psychiatre nous explique pendant 10 longues minutes c'est qui
Norman Bates,
c'est qui Norman Bates, comment ça fonctionne, puis il disait si moi j'avais le culot de remonter Psycho, j'enlèverais cette scène-là au complet, je mettrais juste les trois premières phrases du psychiatre, puis après ça, j'enchaînerais directement avec la dernière scène où on voit Norman Bates puis on entend la voix de sa mère. Et il y a quelqu'un qui a fait ce cut-là juste avec cette modification-là. Et Roger Ebert aurait tweeté en disant « Je questionne pas le piratage, mais ça prouve mon point que cette scène-là est de trop. » Alors, il y a un peu ces deux côtés-là de la médaille de...
Oh. Oui, puis combien de fois ça nous est arrivé qu'on a vu un film où on s'est dit bah cette scène-là est trop... Ouais, un truc qu'on entend souvent aujourd'hui, puis souvent avec raison, les films sont trop longs. C'est vrai qu'ils sont trop longs, puis des fois on a l'impression, t'es le dernier Avengers, là, il y a une couple de scènes qui aurait pu arriver.
Infinity War. Ben là, juste le Hobbit, c'est un excellent exemple de
Tirer
un livre en trois films de trois heures. Là.
C'est ça. Puis, mais j'ai l'impression que ces fans-là font quelque chose de merveilleux, qui est un pas en avant. C'est au lieu de simplement rêver d'une meilleure version, ben ils vont la produire. Ils vont se dire, on va aller jusqu'au bout. Et voici un montage qui, je mal paraphrase. Mais dans le mépris de Godard, ça s'ouvre avec une phrase qui est attribuée à André Bazin, mais qui finalement ne l'est pas. Comment le cinéma nous mène à un monde qui se plie à nos désirs? Ben, je pense que ça s'applique au fan edit. Mais là, c'est qu'on peut participer à ça. On peut contribuer à la construction de cet univers-là.
Ça, ça arrive aussi à un moment où la frontière entre producteur et fan est de plus en plus ténue, là, avec justement les Spielberg et compagnie qui. Puis Lucas, qui était des fans avant, qui deviennent des producteurs, on saisit les moyens de production aujourd'hui en tant que fan et on intervient directement sur le texte et on dit non à l'autorité de l'auteur aussi avec ça. Là. Donc, vite en terminant, j'aimerais connaître vos fan edits les plus farfelus que vous aurez vus ou vos préférés ou quelque chose que vous conseillez.
J'essaie de voir... Moi, je pense que mes préférés, c'est les remontages de bande-annonce.
J'allais dire exactement la même chose.
Ouais. Ça, c'est un travail de moine qui est fait où on va reprendre les images d'un film pour en changer le sens. Celle de Shining, qui est en drame familial et absolument magnifique. Ouais. Meet Jake, he's a dad looking for inspiration. Meet Danny, puis mettent la tune Walking Down on Trouble. Ça, c'est absolument réjouissant.
C'est vraiment un exercice de style qui joue sur la brièveté puis les codes, là, beaucoup, donc avec la musique, avec la narration.
Et sur la familiarité avec le film aussi, parce que forcément, si on n'a jamais vu Shining, si on ne sait pas de quoi, qu'est-ce qui en retourne, ben on pourrait peut-être même y croire.
Le plaisir vient du décalage.
Exactement.
moi, c'est des espèces de réconstitutions génériques aussi de War of the Stars, la version... la version Grindhouse de Star Wars, les espèces de, je l'ai pas vu mais j'aimerais savoir l'espèce de anthologie de court métrage sur Batman là, où on fait plusieurs fan edits en thématique de Batman sans nécessairement utiliser des films de Batman. Il y en a un qui utilise plusieurs films de Christian Bale dont American Psycho, Equilibrium, The Machinist pour parler un peu du Batman de Christian Bale.
C'est intéressant ça.
Je l'ai pas vu là, mais c'est
jouer sur l'identité de l'acteur comme lien entre souvent, les histoires.
Et toi, Megan?
Oh boy, je suis pas assez. Mais j'aime beaucoup, je sais pas si ça compte comme un fan edit, mais j'aime beaucoup quand on reprend soit des images d'une série télé ou d'un film, puis on les refait en générique d'ouverture de téléroman. Donc, tout est flou, puis il y a la petite musique. Moi, ça me fait bien rire. Mais oui, les bandes annonces aussi.
Peut-être une question pour la fin. Avez-vous trouvé des fan edits de fan edits? Des fans qui ont fait ce fan edit-là, en fait, il marche pas. On va le remonter à nouveau. On aurait comme une deuxième génération de fan edit.
J'ai lu dessus, mais j'en ai pas vu. Mais effectivement, celui dont je vous parlais, là, ceux qui ont essayé de reconstituer le fan edit de Topher Grace, puis que finalement, il y en avait qui le trouvaient pas satisfaisant, fait qu'ils le remontaient. Il y a aussi des reconstructions, là, des fan edits qui sont de mauvaise qualité, fait qu'on va les refaire, mais avec du matériel de Blu-ray ou de. une meilleure qualité.
Une bonne technique aussi.
Encore de la restauration, hein, en quelque sorte.
D'une certaine façon, oui.
Oui, on a eu beaucoup de colorisation. Mm. Bon, ben sur ce, on va terminer ici l'émission. Merci beaucoup, Simon. Merci, Boris. C'était vraiment très chouette de pouvoir jaser de ça avec vous. Puis maintenant, on a plus de questions quasiment que de réponses.
Et on invite les fans à remonter cet épisode de Pop en Style.
Ça
serait malade.
Ça serait, s'il vous plaît, faites ça. Bon, à la prochaine. Merci à vous, les fans qui nous écoutent. À la semaine prochaine.
Bravo. Welcome to my nightmare. I think you're gonna like it. I think you're gonna feel like you belong. A nocturnal vacation. Unnecessary sedation.